Gaston de Pavlovski, l'attraction mystérieuse. Il faut bien le reconnaître, dû notre orgueil scientifique en souffrir, nous sommes, à l'heure actuelle, à peu de choses près, aussi ignorants des phénomènes qui nous entourent que les premiers hommes des cavernes. Il n'en est pas moins vrai que les persévérantes études des Charcot, des Dorras et des Flammarion nous permettent d'envisager, dans un avenir lointain, une merveilleuse transformation des connaissances humaines qui bouleversera de fond en comble les conditions mêmes de la vie. C'est ainsi qu'il semble dès maintenant acquis à la science que la pensée humaine peut s'extérioriser, qu'elle ressemble à une véritable fluide très différent de l'électricité et dont les manifestations jusqu'à ce jour mystérieuses pourront peut-être un jour se laisser conduire à notre gré. En attendant, il faut nous contenter d'enregistrer méticuleusement, au moment de leur apparition, ces étranges phénomènes qui se manifestent parfois et qui mettent en déroute toutes les théories scientifiques admises jusqu'à ce jour. Pour aujourd'hui, je me contenterai de rapporter scrupuleusement, tel qu'il me fut écrit par un prince de la science contemporaine, un cas infiniment mystérieux dont la bizarrerie intéressera, nous en sommes persuadés, tous nos lecteurs. Oh, le voici sans commentaire. Un automobiliste, M. P.A.S., jouissant de toutes ses facultés et n'ayant donné jusqu'à ce jour aucun signe de dérangement cérébral, voyageant pour son seul agrément, déjeunait le 25 du mois dernier dans un restaurant sans de Dijon, puis tranquillement, sans nulle préoccupation apparente, remettait sa machine en marche et reprenait le cours de son excursion dans la direction de Lyon. Après une heure de route, il ressentit de vagues inquiétudes, comme une préoccupation intérieure dont il ne pouvait définir la véritable cause. Il lui semblait avoir donné rendez-vous à quelqu'un à Paris, et invinciblement, son malaise augmenta au fur et à mesure qu'il s'avançait vers Lyon. Cependant, en consultant son carnet de notes et en fouillant sa mémoire, il ne pouvait retrouver ce qu'il avait à faire à Paris. Aucun parent, aucun ami ne l'attendait, aucune personne s'intéressant à lui n'y comptait sur son retour. Il fallait donc écarter toute possibilité de suggestion à distance, causée soit par la maladie, soit par la mort d'un tiers. À la fin, toutefois, ses préoccupations augmentant toujours dans de plus fortes proportions, il s'arrêta, vira sur la route et, malgré lui, reprit la direction de Paris. Petit à petit, son malaise cessa. À Joigny, cela devint une véritable sensation de joie. Et à Sens, il exulta, et ce fut en chantant qu'il traversa Melun et Montgeron. Quelle pouvait être cette attraction mystérieuse pour une ville dans laquelle il ne comptait pas revenir avant une huitaine de jours? Il ne se l'expliquait pas lui-même. Mais était-ce bien à Paris qu'il allait? Il traversa la capitale en trombe, monta la côte de Suresnes, guidé par un instinct toujours plus fort, et 20 minutes après, il arrivait, sans pouvoir comprendre comment, au camp de Satory, entre les baraquements occupés par le génie militaire. Il sauta de voiture, hésita un instant, décrivit quelques courbes sur le terrain battu, puis, directement attiré par force mystérieuse, il s'engagea dans un petit escalier de bois qui aboutissait à un grenier vide, servant de colombier. Confus, ne sachant comment expliquer sa présence en cet endroit, il balbutia quelques mots au soldat de garde qui lui courait après, prétendit qu'il s'était trompé en cherchant un ami qui faisait son service à Satori. Puis, sentant tout ce qu'une pareille situation avait d'absurde, il redescendit l'escalier, remonta en voiture et reprit la direction chemin de Paris. Mais en route, nouveau malaise, nouvelle inquiétude mentale, poussée jusqu'à l'expiration. Une fois encore, il fut contraint par une force impérieuse et inexplicable à rebrousser chemin et se retrouva bientôt au camp de Satori, devant le même baraquement. Trois fois, il renouvela la même expérience et trois fois, invinciblement, il revint au même endroit. Littéralement malade de corps et d'esprit, M. P.A.S. s'assit sur le bord de la route, la tête entre les mains, et se prit à réfléchir à l'aventure étrange qui l'obsédait. À la fin, las de chercher, il s'en tint à la solution la plus sage. Il connaissait à Paris un spécialiste des maladies nerveuses, avec lesquelles il s'était entretenu souvent des différents cas d'hypnose, auquel il avait toujours manifesté son incrédulité pour toutes les manifestations de l'inconnu psychique. Sans nul doute, ce devait être cet ami qui, par vengeance, s'était amusé à essayer sur lui de la suggestion à distance et qui le persécutait amicalement de cette manière. 20 minutes après, il était chez lui. L'autre protesta de sa bonne foi, mais vivement intrigué, il proposa à M. P.A.S. de l'accompagner et d'étudier de plus près ce déroutant phénomène. On reprit le chemin de Satori. Et de même que les précédentes fois, M. P.A.S. ressentit sur le parcours un immense soulagement au fur et à mesure que l'on s'approchait du camp. Cependant, une fois que l'on fut arrivé au baraquement mystérieux, un examen plus attentif révéla au docteur que M. P.A.S., tout en étant mentalement au comble de la joie, ressentait de vives et inexplicables brûlures à l'estomac. Le temps d'aller à Versailles et chercher le remède nécessaire, et le docteur put en avoir le cœur net. M. P.A.S., soulagé cette fois moralement et physiquement, reprit place dans la voiture et le docteur donna l'ordre de reprendre la route de Paris. Cette fois, aucun malaise, aucune préoccupation, aucune inquiétude. L'affaire se précisait. Immédiatement, le docteur revint au camp et commença son enquête. Inspection des aliments rejetés, inspection des baraquements, interrogatoire des soldats, et au moins d'une demi-heure, le docteur revint, rayonnant de joie, possesseur des plus curieuses observations de psychologie que l'on ait fait depuis 10 ans. M. P.A.S., assis dans l'automobile, l'attendait avec curiosité. « Eh bien, dit le docteur rayonnant, c'est très simple. Et vous allez voir que rien n'est caché pour un médecin. Je puis vous annoncer en toute sûreté que vous avez mangé ce matin, à Dijon, un magnifique pigeon pour votre déjeuner. » « Oui, fit M. Paz intrigué. Mais après le traitement que vous m'avez fait subir, ça n'était pas très difficile à savoir. Je ne vois nullement pas quel rapport. » Le docteur, toujours souriant, se contenta d'indiquer du geste le fameux baraquement au-dessus duquel, en longue courbe savante, évoluaient les pigeons militaires de la garnison de Satori. « Mais faut-il donc tout vous expliquer ? J'ai pourtant pas besoin d'une grande pénétration d'esprit pour établir que ce pigeon était un pigeon voyageur, appartenant au colombier de Satory, qu'on avait amené sans doute à Dijon pour un lâcher et qui, détourné de sa mission par un hôtelier peu scrupuleux, vous a été tout bonnement servi comme pigeon comestible. Vous expliquer en raison de quel fluide mystérieux ce pigeon a agi sur vous durant toute la journée, comment son instinct vous a contraint à revenir à Satory, comment il ne vous a point laissé de repos jusqu'à ce qu'il eût été rendu à destination. Oh, je ne me charge point de le faire immédiatement, mais j'espère y parvenir très prochainement. Avons-nous besoin de le dire? Ce fait a provoqué une immense curiosité dans tous les milieux scientifiques. Il fera sans aucun doute l'objet d'un rapport à l'Académie de médecine. Il tente à prouver que le sens de l'orientation chez le pigeon survit à la mort, qui s'extériorise comme un fluide électrique et peut s'incorporer dans un être humain par suite de l'ingestion du précieux volatile.